Chapitre 7e. Vers le commencement de cet hiver, Frédéric et Delaurier causaient au coin du feu, réconciliés encore une fois par la fatalité de leur nature qui les faisait toujours se rejoindre et s'aimer. L'un expliqua sommairement sa brouille avec Madame d'Ambreuse, laquelle s'était remariée à un Anglais. L'autre, sans dire comment il avait épousé Mademoiselle Rock, conta que sa femme, un beau jour, s'était enfuie avec un chanteur. Pour se laver un peu du ridicule, il s'était compromis dans sa préfecture par des excès de zèle gouvernemental. On l'avait destitué. Il avait été ensuite chef de colonisation en Algérie, secrétaire d'un pacha, gérant d'un journal, courtier d'annonces, pour être finalement employé au contentieux dans une compagnie industrielle. Quant à Frédéric, ayant mangé les deux tiers de sa fortune, il vivait en petit bourgeois. Puis, ils s'informèrent mutuellement de leurs amis. Martineau était maintenant sénateur. Hussonnet occupait une haute place où il se trouvait avoir sous sa main tous les théâtres et toute la presse. Sisy, enfoncé dans la religion et père de 8 enfants, habitait le château de ses aïeux. Pellerin, après avoir donné dans le fourriérisme, l'homéopathie, les tables tournantes, l'art gothique et la peinture humanitaire, était devenu photographe. Et sur toutes les murailles de Paris, on le voyait représenté en habit noir, avec un corps minuscule et une grosse tête. « Et ton intime sénécal ?» demanda Frédéric. « Disparu, je ne sais. Et toi, ta grande passion, Madame Arnoux ?»« Elle doit être à Rome avec son fils, lieutenant de chasseur, et son mari, mort l'année dernière. »« Tiens, » dit l'avocat, puis se frappant le front. « À propos, l'autre jour, dans une boutique, j'ai rencontré cette bonne maréchale, tenant par la main un petit garçon qu'elle a adopté. Elle est veuve d'un certain M. Oudry, et très grosse maintenant, énorme. Quelle décadence, elle qui avait autrefois la taille si mince. » Delaurier ne cacha pas qu'il avait profité de son désespoir pour s'en assurer par lui-même. « Comme tu me l'avais permis, du reste. » Cet aveu était une compensation au silence qu'il gardait touchant sa tentative près de Madame Arnoux. Frédéric lui pardonnait puisqu'elle n'avait pas réussi. Bien que vexé un peu de la découverte, il fit semblant d'en rire, et l'idée de la maréchale lui amena celle de la Vatnaze. Delaurier ne l'avait jamais vue, non plus que bien d'autres qui venaient chez Arnoux, mais il se souvenait parfaitement de Regimbard. Vit-il encore ? À peine. Tous les soirs, régulièrement, depuis la rue de Grammont jusqu'à la rue Montmartre, il se traîne devant les cafés, affaibli, courbé en deux, vidé, un spectre. Eh bien, et Compain ? Frédéric poussa un cri de joie et pria l'ex-délégué du gouvernement provisoire de lui apprendre le mystère de la tête de veau. C'est une importation anglaise. Pour parodier la cérémonie que les royalistes célébraient le 30 janvier, des indépendants fondèrent un banquet annuel où l'on mangeait des têtes de veau et où on buvait du vin rouge dans des crânes de veau, en portant des toasts à l'extermination des Stuarts. Après Thermidor, des terroristes organisèrent une confrérie toute pareille, ce qui prouve que la bêtise est féconde. « Tu me parais bien calmé sur la politique. »« Fais de l'âge, » dit l'avocat. Et ils résumèrent leur vie. Ils l'avaient manqué, tous les deux. Celui qui avait rêvé de l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison ?« C'est peut-être le défaut de ligne droite, » dit Frédéric. « Pour toi, cela se peut. » Moi, au contraire, j'ai péché par excès de rectitude, sans tenir compte de 1000 choses secondaires, plus fortes que tout. J'avais trop de logique, et toi, de sentiment. Puis, ils accusèrent le hasard, les circonstances, l'époque où ils étaient nés. Frédéric reprit. Ce n'est pas là ce que nous croyions devenir autrefois. À Sens, quand tu voulais faire une histoire critique de la philosophie et moi, un grand roman au Moyen-Âge sur nos gens, dont j'avais trouvé le sujet dans Froissart. Comment Messire Brocard de Fénétrange et l'évêque de Troyes assaillirent Messire Eustache d'Ambrecicourt, te rappelles-tu ? Et exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, ils se disaient « Te rappelles-tu ? » Ils revoyaient la cour du collège, la chapelle, le parloir, la salle d'armes au bas de l'escalier, des figures de pions et d'élèves, un nommé Angelmar de Versailles qui se taillait des sous-pieds dans de vieilles bottes, M. Mirbal et ses favoris rouges, les deux professeurs de dessin linéaire et de grand dessin, Barrault et Suriret, toujours en dispute, et le Polonais, le compatriote de Copernic, avec son système planétaire en carton, astronome ambulant dont on avait payé la séance par un repas au réfectoire. Puis, une terrible ribote en promenade, leur première pipe fumée, les distributions des prix, la joie des vacances. C'était pendant celle de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque. On appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïde Turc, et beaucoup de personnes la croyaient une musulmane, une Turque, ce qui ajoutait à la poésie de son établissement, situé au bord de l'eau, derrière le rempart. Même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison. Reconnaissable, un bocal de poisson rouge près d'un pot de résida sur une fenêtre. Des demoiselles, en camisole blanche, avec du fard aux pommettes et de longues boucles d'oreilles, frappaient au carreau quand on passait, et le soir, sur le pas de la porte, chantonnaient doucement d'une voix rauque. Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. On le désignait par des périphrases. L'endroit que vous savez. Une certaine rue. Au bas des ponts. Les fermières des alentours en tremblaient pour leurs maris. Les bourgeoises le redoutaient pour leurs bonnes, parce que la cuisinière de monsieur le sous-préfet y avait été surprise. Et c'était, bien entendu, l'obsession secrète de tous les adolescents. Or, un dimanche, pendant qu'on était au vêpres, Frédéric et Deslauriers, s'étant fait préalablement friser, cueillirent des fleurs dans le jardin de Madame Moreau, puis sortirent par la porte des champs et, après un grand détour dans les vignes, revinrent par la pêcherie et se glissèrent chez la Turque en tenant toujours leur gros bouquet. Frédéric présenta le sien, comme un amoureux à sa fiancée. Mais la chaleur qu'il faisait, l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords, et jusqu'au plaisir de voir d'un seul coup d'œil tant de femmes à sa disposition, l'émurent tellement qu'il devint très pâle et restait sans avancer, sans rien dire. Toutes riaient, joyeuses de son embarras. Croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit. Et comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre. On les vit sortir. Cela fit une histoire qui n'était pas oubliée 3 ans après. Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre. Et quand ils eurent fini, « C'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Frédéric. « Oui, peut-être bien. C'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Deslauriers. C'est ainsi que se termine l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert.